Le paysan d'Alaise, un récit jurassien de Charles Toubin. La fête patronale du village d'Alaise est une des plus animées de tout le pays jurassien. Perdus en quelque sorte au milieu de leurs rochers et de leurs forêts, les habitants d'Alaise n'ont guère que ce seul jour pour le plaisir. La fête tombe d'ailleurs au mois de juin, l'heureux mois qui ramène des chemins toujours secs, un ciel toujours pur, où tout dans le Jura est verdure, fleurs, fraîches eaux courantes, parfums et chansons. Vraie lune de miel entre l'homme et la nature, l'une toujours jeune et l'autre rajeunie. La configuration du pays d'Alaise est des plus étranges. On n'y rencontre que brusques dépressions de terrain, ravins d'une effrayante profondeur, mamelons et rochers à pic, tout cela irrégulier, compliqué à l'infini. Deux villages seulement, et tous deux bien chétifs, Alaise et Sarra, sont assis sur le massif énorme dont le Taudeur et le Lison arrosent de tous côtés la base, soit par eux-mêmes, soit par leurs humbles affluents. Les cultures et les prairies sont en petit nombre. La forêt tient presque toute la place, et elle est surtout curieuse par les débris des anciens âges qu'elle a conservés à la science. Retranchements gaulois ou romains, mardels, abris de bivac, tombelles celtiques par milliers, monuments inestimables que la bêche et la charrue n'eussent pas manqué de détruire. Des centaines de ruisseaux et de filets d'eau coulent sur ce sol accidenté, et s'enfonce çà et là sous terre pour reparaître un peu plus loin. Rafraîchie et fécondée par toutes ces eaux vives, la forêt se hérisse sur bien des points de broussailles qui la rendent impénétrable hors des sentiers. Mais cette broussaille est le même à son heure charmante, quand juin charge de fleurs l'églantier, le chèvrefeuille et la viorne, dont les senteurs embaument la forêt tout entière. Nous touchons au grand jour. Le curé d'Alaise vient d'annoncer en chaire à ses paroissiens la glorieuse fête de Saint-Jean-Baptiste, patron du village, patron dans tout le Jura des bergers et des fruitiers, fromagers. Les invités, citadins ou villageois, montagnards ou gens du Pays-Bas, accourent à l'envi vers cette étrange et belle région que les pluies et les neiges leur ont fermée si longtemps. Tous font le trajet à pied, car Alaise n'a pas de route carrossable, mais seulement des chemins âpres et montants que peuvent seuls affronter les massifs et inébranlables chariots à bœufs. Tout est préparé à Alaise pour faire au fêtier cordial et, si j'ose le dire, gras accueil. Depuis 3 jours au moins, les femmes n'ont fait que nettoyer, frotter et laver toutes choses dans la maison. Confectionner au nombre de 200 ou 300 par ménage et jeter au four les gâteaux sèches et brioches destinés à être servis aux hôtes ou à être distribués à chacun d'eux au moment du départ pour les membres de la famille qui n'ont pu assister à la fête. Les hommes, de leur côté, ne sont pas demeurés inactifs. Quelques-uns sont allés pêcher au Lison. Le Lison n'est qu'une rivière bien petite, mais riche de truites exquises qui attirent et la fraîcheur de l'eau et la nature même du lit de la rivière, où alternent les gourses et les bruyants, lieux également chers à la truite. Il n'est pas rare qu'une seule pêche produise jusqu'à 400 livres de poissons. Les autres paysans sont allés à Salins faire les provisions. C'est un curieux mais affligeant spectacle que celui de leur retour vers le village. À l'entrée du massif est une gorge sombre et profonde nommée la Languetine. Le chemin est superposé à une voie celtique qui le déborde çà et là et laisse voir profondément empreintes dans le roc vif les ornières des raides. Vers le soir, les lourds chariots d'Alaise arrivent par longues files à l'entrée de la gorge, chargés de provisions de toutes sortes, parmi lesquelles la place d'honneur est réservée au tonneau du vin de Salins, condamné à sonner creux, la fête à peine terminée. Les paysans d'Alaise sont doux entre tous les montagnards du Jura. Mais ce jour-là, ils ont goûté le vin dans plus d'une cave avant de faire emplainte. Et le marché, une fois conclu, ils ont, selon la coutume, dîné chez le vendeur et bu surabondamment. le chemin de la langrettine des plus difficiles. Épuisé déjà de fatigue par le mont des Vallières, sans contredit la plus mauvaise route de France, les bœufs s'arrêtent à chaque pas. Il est tard. Le conducteur s'impatiente. Une grêle de coups de fouet s'abat sur le dos de ces pauvres animaux à l'œil si doux, et dont le dévouement à l'homme ne connaît de limite que l'épuisement absolu des forces. Enfin, le jour de la fête est venu. La messe vient de finir. Elle a été longue, grâce aux 3 points du curé. Un sermon de fête patronale ne saurait avoir moins de 3 points, ni durer moins d'une heure et demie. Nous venons de loin et nous sommes fatigués, disaient les fêtiers. Et qui vous empêche de vous reposer? N'êtes-vous pas assis à l'église? Leur répond familièrement le curé. Le dîner est enfin servi. À l'aise à des vergers pleins d'ombre et de fraîcheur où il serait charmant de dîner sur l'herbe. Mais gardez-vous d'en exprimer le désir. Le paysan croirait que vous vous moquez de lui. Il mange au champ tous les jours et le plus souvent assez misérablement. La nouveauté et l'attrait pour lui, c'est de dîner, comme les gens de la ville, dans un appartement. Dût-il y être affreusement à l'étroit et dans des conditions de température tout à fait incommodes. Le bénédicité, une fois dit, 30 convives s'assoient autour d'une table où 15 seraient à peu près à l'aise et 20 déjà bien gênés. Sur cette table se dressent des montagnes de viande fumante qu'attaquent les fêtiers campagnards, avec une impétuosité d'appétit qui fait peur à leurs commensaux venus de la ville. Ce coin de la Franche-Comté est le pays des estomacs de fer et des faims insatiables. Voyez seulement les surnoms collectifs que se jettent mutuellement à la face les habitants des divers villages. Les gens de Sarra traitent de loups leurs voisins de Mion, qui à leur tour les qualifient de sangliers. Les paysans de Saisonnet reprochent à ceux d'Éternaux de manger entre 3 un bœuf sans boire. Et ceux de Saisonnet, à en croire les paysans d'Éternaux, boivent entre deux un quaril de vin, 75 litres, sans manger. Pesant à ces affamés qui sonnent midi 11 heures, les gens de Lemuy dévorent, dit-on en commun, un argalet, vieux cheval, le jour de leur fête patronale. J'en passe, et des plus expressifs. Revenons à nos 30 convives. Rien d'intéressant ne se passe jusqu'au moment où le café apparaît, escorté des 4 liqueurs jurassiennes. Le macvin, fait de mou de vin cuit et aromatisé. L'eau d'anis, forte anisette apéritive et tonique comme l'absinthe, dont elle n'a pas les graves inconvénients. L'eau de plousse ou de prunelle, une des plus fines liqueurs connues. Et, hélas, la gentiane, inconnue à nos pères et dont la Suisse a récemment infecté les montagnes du Jura. À la vue du café et de son cortège d'honneur, toutes les langues se délient et se mettent en branle à la fois. Récits merveilleux de chasse, récits miraculeux de pêche, mariage fait, défait ou en voie de se défaire, déception de mariage, tels sont les thèmes divers. Et Dieu sait avec quelle verve, souvent un peu libre, ces sujets sont traités par nous paysans. Les femmes ont quitté la table. Ou plutôt, il est rare qu'elles y paraissent. Le dialogue a d'abord été mêlé de patois et de français, mais le patois, ou pour mieux dire la langue de nos pères, a bientôt pris le dessus, langue à peine altérée, vive et expressive comme à ses meilleurs jours, moqueuse par-dessus tout, et ayant pour exprimer et railler les défauts, travers et misères de l'homme, 3 fois autant de mots que le français, déjà cependant si riche sous ce rapport. Le médecin Coictier, qui était bourguignon salé, comprendrait toute la conversation et ne manquerait pas d'y placer son mot. Si la langue est de notre temps, les physionomies sont de notre pays. Le comtois est blond ou châtain. Le paysan du massif a le teint brun avec les yeux noirs et les cheveux noirs. Assis ainsi dans ce coin de terre qu'enferment le lison et le taudeur, tout est particulier et a son cachet propre. Le récit suivant n'a pour but que de mettre davantage en relief toutes ces singularités.